Dieu vous a dit et m'a dit par le prophète Jérémie que le cœur est tortueux, ton cœur est tortueux par-dessus toute chose. Il est incurable. Cela, on l'a vécu. John Bunyan est celui qui a écrit Le Voyage du Pèlerin. Un auteur qui avait beaucoup lu Bunyan et aimait beaucoup Bunyan parlait de sa sympathie. Nikki, tu peux fermer la porte, s'il te plaît?
Si.
Nikki, tu
Excusez-moi.
peux fermer la porte, s'il te plaît?
Oui, en fait, on était en train
Ouais.
de discuter si on
Ouais.
allait ou non.
Mais juste si vous pouvez discuter, oui, voilà. Ouais. Donc, il disait cet auteur que, en lisant les lamentations de Bunyan en tant que chrétien au sujet de son cœur, son péché, sa gravité, et vous savez bien, les enfants, que le péché n'est pas un acte. Les péchés sont des actes. Le péché, c'est-à-dire ce qui crée les péchés, le péché, c'est une orientation de toute ma vie. Loin de Dieu, contre Dieu, et vers les choses mauvaises et vers moi-même. Et cet auteur disait, en lisant Bunyan, en lisant sa manière de se lamenter, il disait, je suis complètement d'accord, c'est un pasteur qui parle, il disait que mon problème, tous les jours, c'est moi. C'est que pour moi, je compte moi-même, je compte. Plus pour moi que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et tout le plan de Dieu et tout ce que Dieu veut. Pour être franc, ce qui me concerne plus que tout cela, c'est moi. C'est moi. Et quand je lis une telle chose, je dis, mais c'est exactement vrai. Le péché incurable. C'est insidieux. C'est mauvais. C'est partout. C'est nous. Et Dieu vous dit, l'âme qui pêche mourra. Parce que le péché est tellement mauvais. Mourra éternellement. Vous ne pouvez pas comprendre votre péché. Vous n'avez aucune idée. Vous voyez quelques péchés que vous faites, mais vous ne pouvez savoir que par révélation la gravité de ce que vous êtes, même en tant que chrétien. C'est un fait que vous ne pouvez pas voir. Vous n'arriverez pas à sentir la profondeur. Dieu doit vous dire, et même quand il vous dit, vous êtes étonné. Quand Isaïe voit le Seigneur dans sa sainteté, il dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Il ne savait pas, il n'avait pas vu. Et c'est la même chose avec nous. Maintenant, où est-ce que Dieu nous révèle la profondeur de notre péché? Il le fait dans sa loi. Mais surtout, il le fait à la croix. Parce que c'est quand nous voyons ce qui arrive à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, une fois que nos péchés sont sur lui, c'est là qu'on peut comprendre quelle doit être la gravité de nos péchés. Et nous avons la scène aujourd'hui. Nous avons la scène et le Seigneur nous a commandé de nous rappeler de sa mort. Donc nous voilà, et nous pensons à Jérusalem, parce que nous pensons à un fait. Nous ne pensons pas à une idée, à un principe. C'est pas ça. Nous pensons à un jour, à Jérusalem, sur ce chemin qu'on appelle maintenant la Via Dolorosa. C'est un chemin qui mène de chez Pilate, le Prétorium, jusqu'au mont de Golgotha. Et c'est presque midi. Il y a un tumulte dans la ville de Jérusalem ce jour. Ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a des gens partout. Les soldats romains essaient de les écarter de leur chemin sans délicatesse. Et on entend des pleurs, des cris, on parle, et voilà un homme qui vient portant un bois. Quand il arrive au niveau de certains enfants, les enfants commencent à pleurer, hurler, et les mamans cachent leurs yeux parce qu'il est tout lacéré. Il saigne partout. Il a été fouetté. Certains n'ont même pas survécu l'expérience qu'il a vécue. 39 fouets. Il a survécu. Mais on a vu que le fouet est allé partout, son dos est complètement ouvert, la chair est exposée, le fouet l'a tapé sur le nuque, certaines fois sur le visage, il a été frappé, il porte une couronne d'épines et il a l'air très déterminé. Il avance péniblement, il tombe. Il remonte, il tombe encore, les gens pleurent, il s'arrête, il dit: pourquoi pleurez-vous pour moi? Pleurez pour vous-même. Parce que si de telles choses se produisent quand le bois est vert, que se passera-t-il quand le bois est sec? Finalement, il ne peut plus. Il est exténué. Et on demande à quelqu'un de porter son bois pour lui. Il arrive au mont de Golgotha, on le plaque sur ce bois et on met des clous, des grands clous dans ses mains et on le cloue carrément contre ce bois. Le bois est hissé et il commence la longue agonie. Il souffre. Tout en lui crie et pleure et gémit. Et il a toujours l'air très déterminé. Et tout cela, c'est à cause de vous et moi. Ce sont nos péchés qui sont la cause secrète de tout cela. Et ces douleurs n'ont que commencé. Une obscurité surnaturelle tombe sur le pays. C'est impossible que ce soit une éclipse parce que le soleil et la lune ne sont pas dans les bonnes positions. Parce que nous savons que c'est la Pâque. Et personne ne voit. Les gens ont peur, beaucoup fuient, la plupart fuient. Et on ne le voit plus. Une obscurité épaisse. Et pendant 3 heures, il se passe, on ne sait pas, et je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire presque un seul mot sur cela. Sauf que, au milieu de cela, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père, crie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et enfin, il meurt. Ça, c'est la révélation de l'amour de Dieu. C'est incroyable que le Seigneur fasse ça pour nous. C'est aussi la révélation de la gravité de mon péché. Puis-je, est-ce que vous pouvez l'accepter? Ou est-ce que vous avez envie de ne pas croire ça? On a envie de fuir. Mais nous sommes venus nous rappeler de tout cela aujourd'hui. Je voudrais donc vous parler de la satisfaction de Christ aujourd'hui et je vous lis deux versets. Premier verset. ce sont la sixième et la septième parole de Jésus sur la croix. La sixième parole, Jean 19. Quand Jésus eut pris le vinaigre, vinaigre est un stimulant, je vous dis, il a déjà refusé une boisson qui l'aurait endormi. Mais le vinaigre, il accepte parce qu'il veut être complètement conscient. Pour complètement, il doit complètement vivre et souffrir consciemment toute la coupe que le Père lui donne. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ah, mais j'ai dit que c'était la sixième parole, ça semble être la dernière. Jean n'a pas raconté que il y a eu un peu de temps après cela. Donc j'insère la septième parole avant qu'il ne baisse la tête. Jésus s'écriant d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il baissa la tête et expira. La manière dont les gens meurent est souvent un miroir de la manière dont ils ont vécu. Staline, on nous dit, est mort en s'imaginant être dévoré par des loups. Je me demande si vous avez vu quelqu'un mourir ou proche de la mort. Il y a peu de gens qui meurent satisfaits de leur vie. Et même ceux qui meurent satisfaits, souvent le font parce que simplement leur vie, leur cœur était tellement étroit et leurs objectifs étaient tellement égoïstes qu'il fallait très peu pour accomplir ce qu'ils voulaient dans la vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ était l'homme parfait. Son cœur était infini. Et son objectif dans la vie, c'était quoi ? C'était de satisfaire complètement le Père et rien de moins. C'est pour ça qu'il est étonnant de le voir arriver le soir avant sa mort où il prie devant les disciples et il dit ceci. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre. Est-ce que vous allez parler comme ça? J'ai achevé. J'ai fait tout ce que tu voulais. Du début à la fin, quand il avait 12 ans, il dit à ses parents, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et beaucoup plus loin, 30 ans plus loin, enfin 20 ans plus loin, il dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'homme parfait, parce que vous ne l'avez pas été, Dieu l'a envoyé pour qu'il soit ce que vous auriez dû être. C'est formidable, n'est-ce pas? Et Jésus a vécu cette vie, accomplissant la volonté du Père, satisfaisant le Père et complètement. Aucune parole mal placée dans toute sa vie. Aucun mobile égoïste. Aucun acte sans amour. Aucune pensée malsaine. Il vit une vie complètement, parfaitement, pleinement et totalement comme Dieu l'a voulu. Et il arrive à cette fin et il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais attention, c'est pas tout à fait vrai. On a envie de dire, parce qu'il n'est pas encore mort. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, la plus grande partie. Est à venir dans quelques heures, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur est en train de voir prospectivement, comme s'il a déjà tout accompli, n'est-ce pas? Il vient de, au repas, il vient de dire, ceci est mon corps, comme si c'est déjà fait. Il se place en avant, mais il sait très bien qu'il y a encore l'œuvre principale suprême pour laquelle il est venu. Il doit aller sur ce chemin douloureux de la croix. Pourquoi est-ce que Jésus doit mourir comme ça? Parce que l'homme qui pêche mourra. Et si tu ne vas pas mourir, il faut que quelqu'un meure à ta place et il faut qu'il soit parfait. Pour des hommes pécheurs et imparfaits, il faut un homme parfait. Parce que s'il est imparfait, il est plutôt avec nous et il a besoin aussi d'un sauveur. N'est-ce pas? Vous avez été rachetés, dit le Seigneur, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. J'arrive. Je commence à vous parler de la satisfaction. Premier point, la satisfaction du Père. Jésus, par sa vie et par sa mort, satisfait le Père vis-à-vis de vous. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus va à la croix, sachant que son but, c'est de satisfaire le Père. Dans ce chapitre 9 de Daniel que Joël a lu, nous lisons une prophétie qui annonce l'œuvre de Jésus, qui dit qu'il doit mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision à le prophète et rendre le Saint des Saints. Il a beaucoup à faire sur cette croix. Mais quand il arrive au dernier moment, avec toutes ses souffrances, il dit, et c'est incroyable, tout cela, tout est accompli. La satisfaction du Père pour tes péchés, une satisfaction complète du Père, ce qu'il exige pour tes péchés est accompli. Le mot satisfaction est un mot théologique, dans le sens où je l'emploie, ça veut dire que la justice que Dieu exige a été rendue et que Dieu le juge qui demande, qui exige que tu sois puni pour tes péchés, il a reçu ce qu'il a demandé, il est satisfait. On peut le penser comme ceci. Ce week-end, j'ai entendu que Bernard Tapie doit 450 millions d'euros au gouvernement français. Cet homme d'affaires français a dit à la presse, « Je suis ruiné, je n'ai aucun moyen de payer une telle dette. Vous êtes plus endetté envers Dieu que Bernard Tapie envers le gouvernement français. Vous devez dire, je suis ruiné. Il n'y a aucun moyen que je paye ma dette. » Maintenant, je vous demande, comment est-ce qu'on peut sauver une personne endettée qui ne peut pas payer sa dette. Et il y a plusieurs manières. On peut cacher la personne pour que le gouvernement ne le trouve pas. On peut l'amener dans un autre pays. On peut brûler son dossier dans les archives du gouvernement. On peut le sauver de sa dette comme ça. Mais le problème, c'est que en le sauvant comme ça, on ne le sauve pas vraiment. Parce qu'on commet un deuxième crime qui est encore plus grand que sa dette, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut sauver une personne de sa dette sans violer la justice encore? Il faut payer sa dette. Mais qui peut le faire? Seulement Dieu lui-même. Si un homme très très riche, ami de Bernard Tapie, qui aimait, je ne sais pas si les gens aiment Bernard Tapie, il doit y avoir certains, mais si un homme très très riche arrivait au gouvernement français et disait « voici les 450 millions d'euros », qu'est-ce qui arriverait au gouvernement français? Quelque chose arriverait. Qu'est-ce qui arriverait au gouvernement français à partir de ce moment? Ben, le gouvernement français serait satisfait. Il n'était pas satisfait avant du tout de Bernard Tapie. Et maintenant, il est satisfait. Et il ne demande plus rien à Bernard Tapie. Et Bernard Tapie n'a pas contribué un centime à son salut. Jésus, à la fin de ses souffrances, dit « Tout est accompli. » Et ensuite, cette parole qui m'intéresse plus aujourd'hui, et j'ai presque fini la moitié de mon sermon, il dit « Père, et rendez-vous bien compte, pendant les 3 heures d'obscurité où la colère de Dieu est sur lui, où il est en train de payer la peine, Dieu n'est pas encore satisfait, il expérimente l'enfer. Il, pour la première fois de sa vie, à ce que nous sachions, il prie au Père sans l'appeler Père. Il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne peut plus, pour la première fois, lui adresser en tant que Père. Parce qu'il est dans la place du criminel et pas du fils bien-aimé, dans un sens. Mais maintenant, ayant dit « tout est accompli », il redit « Père ». Et la dernière chose qui sort de sa bouche, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une parole de confiance. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Rappelons-nous que le Christ est déterminé. Il sait ce qu'il a à faire. Il doit satisfaire le Père pour vos péchés. Et quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et il meurt, il se donne à la mort, ça veut dire qu'il sait que le Père est satisfait. Imaginez-le, le Fils de Dieu sait que le Père est grand juge de vous, le Père est satisfait. Tout a été donné, tout est accompli. En fait, le Père est plus satisfait par ce que Jésus lui a donné que ce que vous auriez pu lui donner si vous n'aviez jamais péché. C'est difficile à croire, nous sommes tellement égoïstes que nous aurions préféré mener une vie parfaite et nous présenter à Dieu sur la base de nous-mêmes. Mais la Bible nous enseigne très clairement que la justice de Dieu, qui n'est pas la nôtre, la justice de Christ qui nous est imputée, plaît à Dieu. Il plaît à Dieu plus que nous arrivions à lui par cette justice que par une justice humaine parfaite. Le Père est satisfait. Je crois que nous pourrions nous arrêter 3 heures et essayer juste un peu d'assimiler ça. Le Père éternel et tout-puissant, à mon égard, à ton égard, il est satisfait. Beaucoup d'entre nous vivent comme si Dieu n'est jamais tout à fait satisfait. Je vois ce jeune homme que je connais, je ne vais pas vous dire son pays ou sa ville, mais il est tourmenté. De moins en moins, parce qu'il grandit en tant que chrétien, c'est un fervent chrétien, c'est un bon frère. Mais il souffre en lui-même, tous les jours, et ça l'amène à se replier, à constamment penser à sa vie spirituelle, ses péchés, comment il voudrait être un meilleur chrétien, comment il ne l'est pas. Et son grand problème dans la vie, c'est qu'il n'est pas aussi bon qu'il voudrait être. Et il vit une vie fondamentalement insatisfaite. Alors que le Père, vis-à-vis de lui, est complètement satisfait. Là, il y a une dissonance énorme. Il y a quelque chose qu'il est en train de louper. Le Père est complètement satisfait vis-à-vis de lui, à cause de Jésus. Et lui, il vit comme si ce n'est pas vrai. En tout cas, voilà. Le Père, Jésus est confiant et satisfait. Je m'en vais vers toi, je me remets entre tes mains, parce que je sais que tu es maintenant satisfait. Mais ça va sembler bizarre, mais le Fils de Dieu est a une satisfaction de soi aussi. Excusez-moi cette expression. Dans un sens différent, ce n'est pas une satisfaction légale de la justice, mais le Fils de Dieu, en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », il est en train de dire un mot de confiance, de repos, et c'est pour cela qu'il baisse la tête, pas en résignation, mais en repos, et il se repose, confiant, satisfait de ce qu'il a tout accompli. Et il ne pensait pas qu'il va vers la mort, c'est-à-dire la mort vient l'attraper. La mort ne vient pas attraper Jésus-Christ comme nous. Pour nous tous, la mort vient nous prendre. Pour Christ, c'est plutôt lui qui vient vers la mort et qui décide le moment de sa mort. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Boum, il est parti. Il est parti parce qu'il l'a voulu. Il est allé attraper la mort et passer à travers la mort comme une porte en tant que conquérant. Donc nous avons là, et la Bible nous dit bien, qu'il dit d'une voix forte, il veut que tout le monde entende, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit !» Il a dû prendre toute sa force. Peut-être ce vinaigre était pour lui permettre d'avoir assez de lubrification dans la gorge pour le dire et le dire bien fort. Mais en tout cas, c'est la 7e parole de Jésus de la croix. Maintenant, pensez avec moi un moment. La Genèse, la création. Dieu dit combien de paroles pour créer toute chose? Il en dit 6. Une parole chaque jour. Que la lumière soit et la lumière fut. Sur la croix, Jésus dit non pas 6 paroles, mais 7. Une parole de pardon, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une parole de rédemption, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Une parole pour prendre soin de sa femme. Ça, pardon. Mère, voilà ton fils. Et à Jean, voici ton mère, ta mère. Et ainsi de suite. Mais Jésus ne dit pas 6 paroles, il en dit 7. Parce que nous avons là la 7e parole d'une nouvelle création qui va plus loin que la première. Et je ne crois pas que ce soit un accident que Jésus dit 7 paroles et que la 7e soit celle-ci. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Écoutez bien, Jésus est en train de dire par cette parole, j'entre maintenant. Ressuscite-moi, c'est un peu le contenu de ce. Je remets mon esprit entre tes mains, à toi maintenant de me ressusciter. Et cette résurrection est le début d'une nouvelle création. Il est le premier homme d'une nouvelle humanité, d'une humanité qui est immortelle, qui ne meurt pas. Donc, dans cette parole, il quitte un peu son travail de médiateur sur la terre. Pendant 6 paroles, il travaillait. Encore, pardonne leur père, j'ai soif. Prends soin de ma mère. Il travaille encore, il s'occupe des affaires. Et même dans cette 6e parole, tout est accompli. Il travaille parce qu'il nous révèle, comment est-ce qu'on aurait pu le savoir s'il ne l'avait pas dit, que tout est accompli. Il affiche, il révèle. Il finit son travail vis-à-vis de nous, mais dans cette dernière parole, tout est fini. Il ne pense plus à son œuvre, il ne pense plus dans un sens à sa médiation terrestre. Il pense maintenant à un monde céleste, à une nouvelle humanité dans laquelle il va entrer. Et il dit, Père, entre tes mains, toi qui es dans ce monde à venir, je remets mon esprit. Donc nous voyons cette satisfaction du Fils quand il baisse la tête. Et pouvez-vous imaginer le Christ qui connaît toutes les prophéties, qui sait qu'il devait mettre fin au péché, expier l'iniquité, mettre fin à la prophétie, oindre le Saint des Saints, satisfaire le Père, dépouiller les puissances des ténèbres de leur force et tout le reste. Et maintenant, quand il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il sait qu'il a fait tout cela. Un salut cosmique est achevé qui changera l'éternité des éternités. Et le Christ dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Je termine avec, non pas la satisfaction du Père ou la satisfaction du Fils, mais votre satisfaction éternelle. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait pas besoin d'expiation. Ce qu'il a fait sur la croix, il a fait en tant que représentant. Il te représentait. Et lorsqu'il dit cette 7e parole, il est toujours en train de te représenter. Lorsqu'il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », c'est pas en tant que personne individuelle. C'est en tant que représentant de tout le peuple élu qui nous a accrochés. Nous sommes accrochés à sa ceinture. Nous sommes tous accrochés à lui. Ce qui lui arrive, nous arrive. Et lorsqu'il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains pour la résurrection », il est en train de remettre solennellement nos esprits, les esprits de tous ces élus au Père, en disant « Ressuscite-moi en tant que prémisse et eux après moi. » C'est comme si en disant « Tout est accompli », Jésus annonce et vous annonce que le Père est satisfait, Et en priant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il dit, maintenant, Père, donne ton amen. Donne ton amen à ce que je viens de dire. Moi, je dis tout accompli. Moi, je dis que tu es satisfait pour le péché de ton peuple. Montre-le. Mets ton cachet. Je remets mon esprit entre tes mains. Et quand le Père répond à cette prière et ressuscite le Christ, il donne son amen et dit, je suis satisfait. Il n'y aura jamais plus rien que les élus doivent faire pour être en règle avec moi. Complètement en règle avec moi. Quelle est ta réponse? C'est la réponse que nous allons célébrer à la scène, c'est la foi. C'est croire, n'est-ce pas? Et c'est quoi la foi? Aujourd'hui, on va dire que la foi est une sorte de satisfaction. Le Père est satisfait de l'œuvre de Jésus-Christ, toutes ses souffrances pour mes péchés. Et le moment où je me suis converti, tout ce que j'ai fait, c'est de dire je suis d'accord avec le Père. Le Père est satisfait, il dit ça suffit, je n'ai besoin de rien d'autre, pas une seule bonne œuvre de plus. Et moi, j'ai vu que l'œuvre de Christ était complètement suffisante, que je ne pouvais pas ajouter, même par une vie chrétienne parfaite, quoi que ce soit, à ce que j'avais déjà en Christ et en sa mort. Et donc j'ai dit au Seigneur Jésus, moi aussi, je suis satisfait de ce que tu as fait. J'arrête mes folles efforts d'ajouter quelque chose. Je renonce à cette insatisfaction qui dit, oui, le Christ est mort, mais il faut que j'ajoute ma justice. Je dis, non, je crois que le Père est satisfait de toi et toi seul. Et je mets ma confiance en toi aussi. Toute vraie joie chrétienne commence là, quand vous devenez satisfait. Quand vous arrivez miraculeusement à laisser tomber votre justice de soi et je perds ma pensée. Quand vous arrivez à perdre votre justice de soi, à savoir que Dieu ne veut pas de votre justice. Il veut la justice de Christ. Il a la justice de Christ. Et il est satisfait. Et la continuation de la vie chrétienne, c'est simplement de plus en plus, on croit, on est satisfait de ce que Christ a fait. Et on cesse d'essayer de rivaliser Jésus-Christ. Parce que vous savez qu'il y a des chrétiens dans le but et ils ne le réalisent pas. C'est pas de croire au Christ et sa justice qui sauve, mais c'est de rivaliser le Christ. D'être l'homme parfait, d'être la femme parfaite. Et pourquoi? Parce que la justice de Christ ne semble pas être satisfaisante. Je ne vous pousse pas à être immoral. Je veux bien que vous soyez de plus en plus comme Christ, mais pas pour satisfaire le Père. Pas pour arriver à la barre, parce qu'il n'y a plus de barre. Christ a déjà tout fait. Nous allons chanter ensemble le 196, Ô Jésus, Prince généreux. Yeah.
Seigneur pour ses éléments.